Bien, alors d'abord un petit retour sur le titre avant de commencer, puisque le titre qui avait été porté dans les programmes, c'est « Un nouvel acteur de la formation à l'information », le RTE, culture informationnelle, et je voudrais ajouter « et curriculum documentaire », puisque le titre exact de cette RTE, c'est « culture informationnelle et curriculum documentaire », c'est la relation entre les deux, qui nous importe donc important là de rectifier. D'autre part, acteurs de la formation, il faut préciser aussi ce que l'on entend en l'occurrence par acteurs. Nous souhaitons dans cette équipe être dégagés de toute influence institutionnelle et nous refusons toute prise de position directe dans des revendications professionnelles, militantes. On peut le faire par ailleurs, si vous voulez, mais dans le cadre de notre équipe, nous souhaitons garder une certaine distance de manière à garantir l'objectivité scientifique de notre démarche. Nous voulons plutôt contemplateurs plutôt qu'acteurs, même si notre réflexion devrait aboutir à des préconisations pour l'action. Voilà, quelques petites précautions oratoires pour situer un peu l'ensemble. Donc, je vais définir ce que c'est qu'une ERTE, parce que le sigle peut apparaître bien obscur. J'expliquerai la genèse de cette équipe, ses objectifs, sa composition, ses méthodes. Et dans une seconde partie, j'essaierai de mettre l'accent sur quelques points forts qui sont en train d'émerger, puisqu'il s'agit d'une action de recherche qui est en cours et qui ne trouvera son aboutissement définitif que fin 2009. Donc, tout d'abord, un petit panorama pour vous expliquer ce qu'est cette ERTE. Alors, une ERTE, les textes ministériels en donnent une définition bien précise, puisque c'est une action de recherche qui est directement financée par le ministère. Les équipes de recherche technologique, éducation, ont pour finalité la résolution des problèmes liés à l'éducation et à la formation. Elles peuvent se consacrer au processus d'apprentissage, à l'utilisation des TIS, à l'efficacité des structures ou méthodes éducatives. Donc ça, c'est un premier point sur les objectifs. L'autre point, elle se justifie par une demande de praticiens de l'éducation et de la formation ou de responsables du système éducatif confrontés à un enjeu concret ou un problème défini qui exige une démarche de recherche fondamentale spécifique. Là, c'est un second point fort, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une telle équipe de recherche, il faut qu'il y ait une demande de terrain et un partenariat qui s'installe avec des différentes institutions engagées dans l'action de formation très concrètement. En ce qui nous concerne, c'est par une volonté collective qui est issue des Assises nationales pour l'éducation à l'information, qui ont eu lieu à Paris en 2003, que le mouvement fédérateur s'est amorcé. Donc, à l'initiative d'enseignants, de chercheurs et de professionnels, qui est vraiment une prise de conscience générale sur les problèmes de culture informationnelle, on a eu une première série de réunions pour fédérer le projet, donc en 2004. Et c'est un projet qui n'est pas récent, qui s'est construit un peu à la fois et qui s'est élaboré par une réflexion sur le long terme. Je citerai Claire Panigel, Christiane Etévé, Françoise Chaperon et puis d'autres personnes comme Alexandre Serre ou Yolande Maury qui sont ici et sous le contrôle desquelles je parle. Je ne peux pas citer tout le monde. En fait, une ERTE, c'est quand même une équipe importante, en nombre aussi, nationale, donc qui fédère en fait plusieurs sous-équipes qui a pour caractère principal d'être pluridisciplinaire. Nous nous appuyons en l'occurrence sur les sciences de l'éducation et sur les sciences de l'information. Moi-même, je suis prof en sciences de l'information et de la communication. Et le laboratoire d'appui de cette équipe, c'est GIRICO, groupe d'études et de recherche interdisciplinaire en information et communication, qui est un laboratoire de recherche de Lille 3. Le laboratoire civique, centre interdisciplinaire de recherche sur les valeurs de Rouen, a également été un apport à la construction d'ensemble du projet. Alors, cette équipe nationale fonctionne en réseau. Il y a une équipe de pilotage qui assure la coordination de l'ensemble et des sous-équipes qui coordonnent des actions locales avec la possibilité de s'adjoindre des collaborations plus indirectes mais inscrites dans le mouvement global. Alors, pour vous énumérer les principaux lieux de réflexion, il y a une équipe à Rouen, sous la responsabilité d'Éric Delamotte et Françoise Chaperon, une équipe à Rennes, dont Alexandre Serre est le responsable, une équipe à Lille, dont je suis responsable, une équipe à Bordeaux, dirigée par Vincent Liquette, une équipe en Lorraine, sous la responsabilité de Muriel Frisch, et une équipe à Paris, avec Yolande Maury et Christiane Etévé. Au total, ça représente 14 enseignants-chercheurs, dont 3 directeurs de recherche, 6 doctorants, dont le sujet de thèse est inscrit directement dans le RTE, 3 professionnels associés et 6 représentants des organismes partenaires. Vous voyez, c'est aussi important en fait qu'un laboratoire, hein, en termes de nombre d'effectifs, même de budget et de gestion administrative. Donc les échanges se font par le biais de réunions régulières et d'une plateforme collaborative. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la particularité d'une ERTE, c'est qu'elle doit contribuer à résoudre des problèmes qui se posent concrètement sur le terrain, et donc elle doit aussi fédérer des partenariats professionnels. Donc, nous avons impliqué directement dans l'ERTE les urfistes, bien entendu, l'ENSIB et Formiste, la FADBEN, le CNDP et des IUFM. Je précise que nous avons également eu le soutien d'organismes comme la DBS qui nous prête régulièrement un local, par exemple. Alors, les objectifs initiaux de cette ERTE peuvent se décliner en 5 directions principales. La première direction, il s'agit de clarifier les enjeux institutionnels, politiques et sociaux associés à l'enseignement des méthodes documentaires. Alors, cette direction de recherche relève d'une analyse socio-historique des discours institutionnels et professionnels sur la documentation en milieu scolaire et universitaire, et d'une analyse des réseaux historiquement construits des acteurs et des personnes. Autrement dit, il y a une sous-équipe qui travaille là-dessus, j'y reviendrai, il a fallu constituer un corpus des textes qui peuvent être considérés comme ayant eu une importance déterminante dans la détermination de ces politiques et de l'enseignement des méthodes documentaires. Également, on s'est intéressé aux acteurs dont l'influence pouvait avoir aussi été déterminante donc, au plan socio-historique. Deuxième objectif, ce serait d'identifier, de recenser et de définir les concepts clés et les savoirs essentiels en information-documentation et à tenter de délimiter, tant que faire se peut, les territoires de la culture informationnelle. Donc là, la réflexion didactique sur les savoirs à enseigner et ou savoirs à apprendre étant inséparable de celle sur les contenus et les finalités d'une culture informationnelle qui se cherche. Troisième objectif, mettre en évidence les ressources cognitives sollicitées par les opérations documentaires. Niveau d'abstraction, aptitude au décentrement, aptitude à maîtriser des classifications emboîtées, maintien de l'attention, procédure de transfert. Vous voyez là une direction plus psychocognitive d'observation, donc qui concerne également certains d'entre nous. Quatrième objectif, identifier et observer les conduites et la mise en œuvre de représentations liées aux pratiques sociales ordinaires d'information. Alors, l'idée, c'est que les pratiques sociales ordinaires fonctionnent à la fois comme ressources, mais aussi comme obstacles, et que si les transferts sont possibles, parfois, ces pratiques habituelles peuvent être un frein aux apprentissages. On signalait tout à l'heure, par exemple, que les étudiants sont presque tous connectés à Internet. C'est ce que nous avons fait les mêmes constats chez les enfants plus jeunes. 80% des jeunes, des foyers où il y a des adolescents, sont actuellement en France connectés à Internet. Ça, c'est d'après les enquêtes Médiamétrie. Donc, ça veut dire que pratiquement tous les apprenants ont l'occasion, à un moment ou à un autre, de pratiquer Internet. Et même, ce que nous avons pu constater, même chez les tout-petits, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une pratique quasi journalière qui s'instaure. Donc, que fait l'école de cela? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a des interférences entre des savoirs qu'on s'efforce de construire en milieu scolaire et ce qui se passe dans les familles? Ça, c'est un point important d'observation. Dernier objectif, c'est de décrire et de modéliser les types de connaissances mobilisées par les apprenants et les savoirs cachés qui sont scolairement rentables, mais qui ne sont pas forcément identifiés et qui restent souvent dans l'implicite. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'usage des bibliographies. Les étudiants apprennent souvent à constituer, suivant des normes, une bibliographie, voire classer les types de publications, mais lire à travers une bibliographie le type de travail scientifique qui est celui de tel ou tel chercheur, c'est quelque chose de bien plus difficile. Par exemple, avoir le réflexe de voir dans les bibliographies qu'il utilise, le caractère récent des sources, les types de fondements, l'importance des relations internationales. Bon, on lit à travers la bibliographie. Or, ça, cette façon de lire à travers la bibliographie, elle est très souvent, en tout cas, laissée dans l'implicite. Donc, c'est ce type de savoir-là qu'on voudrait essayer aussi de rendre, pour le coup, plus explicite. Alors, après avoir donné les cinq principaux objectifs que nous nous sommes conjointement fixés, j'essaierai de donner quelques indications sur les méthodes et les principes que nous avons essayé de suivre. Alors, vous vous doutez bien qu'une équipe de plus de 30 personnes est pluridisciplinaire et pour le moins hétérogène dans ses approches. Et donc, une grande partie de notre travail a été d'apprendre à communiquer entre nous. Il y a plusieurs axes qui se sont dessinés. Donc, l'axe socio-historique, donc, qui s'attache, c'est essentiellement la sous-équipe de Rouen qui travaille là-dessus, s'interroge sur les enjeux et l'histoire de l'information literacy et sur ses fondements épistémologiques. Donc, ce sont eux qui ont recueilli un corpus de textes fondateurs et qui ont commencé une série d'entretiens avec des acteurs importants de la formation à l'information. Citons François Le Goff, doyen de l'inspection générale, président du jury CAPES de documentation, Jean-Louis Durper, inspecteur général chargé de la documentation, mais aussi des enseignants-chercheurs qui pouvaient avoir joué un rôle dans l'émergence des disciplines, l'idée étant de voir s'il y avait vraiment émergence d'une discipline documentation qui était possible. Donc Joël Le Baume, par exemple, ou Thierry Théré pour les STAPS. On a vu également le directeur du CLEMI, le conservateur général des bibliothèques. Voilà, donc il y a toute une série d'entretiens qui sont menés, décryptés, et pour lesquels il doit y avoir une analyse de contenu qui doit être qui est en cours mais qui n'est pas achevée. Quatre équipes se sont données pour objet d'avancer dans une réflexion didactique qui vise à mieux définir les éléments structurants d'une culture documentaire. Alors, il s'agit à la fois de recueillir les savoirs des enseignants documentalistes formateurs en matière de concepts, de procédures, de pédagogie infodocumentaire, pour voir comment ces éléments se structurent et s'actualisent dans les formations. Mais il s'agit également d'interroger la construction de la professionnalité chez les documentalistes débutants. Donc, un axe porté par l'équipe de Rennes et complémentaire du précédent consiste à approfondir et à formaliser pardon, des travaux déjà menés auparavant, notamment sur les contenus didactiques orientés pour l'enseignement. Donc il s'agit d'aboutir à un référentiel des notions essentielles et des concepts organisateurs pour l'enseignement secondaire et supérieur. Cette équipe, je vous rappelle, est dirigée par Alexandre Serre, qui est ici présent. Elle vise aussi à réfléchir à une représentation des termes et des relations entre concepts pour réfléchir à une meilleure articulation entre les niveaux secondaires et supérieurs. Le but étant d'arriver pas seulement à un glossaire, mais à des niveaux de formulation évolutifs, en quelque sorte, sur les savoirs en information documentation. Les équipes de Paris, Bordeaux et Lorraine travaillent essentiellement sur la construction de l'identité professionnelle des enseignants documentalistes, avec des entretiens qui peuvent être, c'est le cas à Bordeaux, menés tout au long des 2 années de formation, puis au moment de l'entrée dans le métier, pour voir comment les documentaristes perçoivent la formation à la documentation et comment on peut à la fois ils intègrent les problèmes qui se posent et lorsqu'ils sont confrontés au terrain. Par ailleurs, les trois équipes, donc Paris, Bordeaux, Lorraine, travaillent sur des observations de séquences pédagogiques menées dans les classes. Avec un corpus d'enregistrement vidéo, dans le but de voir comment les pratiques infodocumentaires se vivent au quotidien et en contexte dans les établissements du second degré. Donc, ces approches permettent d'identifier des problèmes récurrents. Bon, les approches de la classification, des mots-clés, hein. Elles mettent en évidence les formes et l'importance de la médiation face aux contextes socio-techniques dans lesquels s'inscrivent les pratiques et les apprentissages. Et elles conduisent à s'interroger sur les procédures uniformisantes ou au contraire sur les possibilités d'émergence d'une certaine distance créatrice. Je dois dire que j'étais troublée tout à l'heure en entendant parler de la formation des doctorants, des réponses qui avaient été faites dans l'enquête à « Avez-vous eu une formation antérieurement ?» Parce que ça, c'est quelque chose, quand on travaille sur l'ensemble des niveaux, c'est très troublant de voir que, alors qu'il y a quand même un effort qui est fait très important, notamment par les documentalistes du second degré qui sont formés à cela, hein, pour former à l'information, cette formation n'est pas forcément identifiée comme telle. C'est-à-dire, moi, je ne suis relativement pas étonnée qu'à la question « Est-ce que vous avez eu une formation avant ?» on vous réponde non. Même si les gens en ont une, il n'est pas forcément évident qu'ils l'identifient, qu'ils l'aient intégrée, j'ai l'impression d'en avoir fini avec cette formation. Et ça, pour nous, c'est une interrogation majeure. Pourquoi est-ce qu'on a toujours un petit peu les gens, les mêmes genres de démarches qui sont entreprises, ces mêmes genres d'items qui sont repris tout au long des cursus, sans que, il y ait progression en quelque sorte, et qu'on ait toujours l'impression de refaire table rase alors qu'on passe d'un niveau à un autre et d'un cycle à un autre. Alors, l'équipe de Lille, donc, s'est surtout attachée au rapport entre les pratiques prescrites, les pratiques sociales et les pratiques scolaires. Je fais bien une distinction entre pratiques scolaires et pratiques prescrites, parce que ce que nous avons vu, notamment dans l'enseignement élémentaire, fait refrémir, je pense, certains professionnels des bibliothèques. Mais ce sont quand même des pratiques vécues comme normatives dans les écoles où nous avons travaillé. Nous nous sommes attachés à une étude ethnographique en contexte. C'est-à-dire que j'étais très intéressée par les enquêtes quantitatives qui ont été présentées parce qu'elles sont très complémentaires de la démarche que nous avons entreprise, qui est plutôt une démarche qualitative, par immersion. Dans des lieux qu'on a choisis comme spécifiques, si vous voulez. La première étape qui est maintenant quasiment achevée, c'était une école élémentaire, un groupe scolaire élémentaire et maternel. Nous nous sommes immergés dans l'école, un groupe de 7 chercheurs, par un temps très long, et nous avons procédé par observation, par entretien. Nous avons fait des entretiens avec, par exemple, tous les enseignants de l'école, mais aussi avec des enfants. Moi-même, j'ai fait 21 entretiens avec des enfants de la maternelle au CM2, par exemple, et avec les parents dans les familles. Donc, l'idée étant d'avoir une vue ethnographique de comment les documents sont perçus, circulent, quelles pratiques documentaires sont instaurées dans ce milieu, et qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des éléments perturbants ou au contraire facilitateurs des apprentissages, qu'est-ce que les enfants retiennent au final, comment les choses évoluent. C'est de cette étude que je parle avec le plus de détails et le plus facilement, forcément, puisque j'étais complètement immergée dedans. Notre hypothèse de départ, c'était que dans un contexte d'enseignement-apprentissage, les élèves et les étudiants, c'est pareil, hein, sont pris en permanence entre les représentations et les savoirs qui viennent de leur milieu familial et les savoirs, comment dire, les pratiques quotidiennes aussi, et les savoirs que l'école ou l'université essaie de leur inculquer d'une manière systématique et raisonnée. Alors, ça porte disons que ça a une importance très grande pour la pédagogie, parce que cette structure qui se construit, surtout dans les tout premiers apprentissages, qui sont peut-être très éloignés de vos préoccupations, mais qui préparent sur le long terme ce que vous allez rencontrer, cette structure est une structure d'accueil qui devrait accueillir des connaissances embryonnaires qui vont se développer au fil des cursus. Or, on a vu qu'il y avait quand même des problèmes et c'est ce qu'on a essayé de voir. Alors, on a mis en place, outre ces observations plus classiques, une méthode d'observation sans doute plus originale sur les usages de l'Internet et des technologies. C'est un de mes doctorants, Louis-François Claro, qui l'a mise au point techniquement. Nous avons, avec l'autorisation des parents, des enseignants, etc., nous avons pris toutes les précautions juridiques nécessaires. Nous avons mis des mouchards dans les ordinateurs de l'école. C'est-à-dire, il y a des caméras intégrées qui se déclenchent automatiquement, sans intervention humaine à intervalles réguliers, qui enregistrent à la fois ce que les élèves font sur l'ordinateur et leurs expressions, leurs attitudes, ce qu'ils disent. C'est-à-dire, il y a une petite caméra et nous, on a comme résultat, en incrustation, la personne qui utilise l'ordinateur. Et on voit en même temps ce qu'elle est en train de faire sur l'écran. Alors ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, parce que si vous voulez, on pourrait croire qu'on est dans une école où il y a un site informatique développé pour une école élémentaire, relativement, hein, il y a une quinzaine d'ordinateurs. On pourrait croire qu'il y a des choses importantes qui se font. Et on a pu, grâce à ces enregistrements, montrer à quel point il y avait un défaut, d'une part un défaut de médiation, d'autre part que les difficultés réelles que rencontraient les enfants étaient de l'ordre du traitement de l'information principalement, et qu'à ce niveau-là, ils n'étaient pas aidés et qu'ils se décourageaient. Et l'Internet à l'école, ce n'était pas drôle. Voilà ce qu'on avait finalement mis en évidence. Enfin, pour résumer un peu cette approche, c'est une approche qui se veut contextuelle, avec l'idée que les pratiques ne peuvent pas se dissocier des fonctionnements matériels, des contextes sociotechniques dans lesquels elles s'inscrivent. Alors, je vous avais promis de donner... moi j'ai fait que la moitié de mon... Tu m'avais dit... je sais pas, hein. Tu m'avais dit une demi-heure, donc... Oui. La demi-heure est écoulée. Bon, eh ben, tant pis. Bon, ben, disons que ça pourra être fait sous forme de discussion, si vous voulez. Les points problématiques, c'est la continuité dans la construction des concepts infodocumentaires dans l'ensemble du cursus. Tout se passe comme si des éléments étaient posés très vite, très très vite, même j'allais dire presque prématurément dans les cursus, mais qu'ils n'étaient plus jamais activés, si bien qu'ils finissent par se dessécher et à fonctionner d'une manière erronée. Hein, des notions comme un éditeur, par exemple, le terme éditeur est introduit dès la maternelle. Mais on arrive au bout du compte à des enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'un éditeur au bout du cursus. Pourquoi, si vous voulez, on n'est pas attentif à ce qui se passe vraiment dans la tête des élèves. Donc, par exemple, on dit en maternelle que l'éditeur, c'est celui qui fabrique le livre. On apprend que l'éditeur, après, quand les enfants commencent à savoir lire, on apprend à repérer où se trouve le mot correspondant à l'éditeur sur la couverture. Ils arrivent à repérer ça. Mais après, tout fonctionne dans l'implicite. Donc, quel est l'éditeur de ce livre? Bon, si c'est sur la couverture en bas, on va dire le mot qui est là. Mais qu'est-ce que ça représente? Rien ne s'est construit derrière. Et on est toujours dans l'implicite. Et ça continue à fonctionner comme ça très longtemps. Hein. Bon, là, c'est un petit exemple pour vous montrer un peu où je veux en venir. L'autre point, c'est que la matérialité documentaire n'est pas pensée. Donc, quand on parle de culture informationnelle, nous avons tenu à maintenir l'importance de la documentation. Parce que les aspects matériels existent même lorsqu'il s'agit d'écran. Et lorsqu'il s'agit d'écran, il s'agit d'ensemble de signes organisés graphiquement et linguistiquement. Donc, la matérialité documentaire, elle travaille toujours. Et les apprentissages, et elles méritent d'être pensées en tant que telles. Les choix médiatiques, les modes de diffusion, les modes de fabrication, etc. Or, c'est un point aveugle. On peut dire que le CP est un tournant majeur pour la documentation, parce que tout ce qui est fait sur le travail sur les objets documentaires, on l'oublie parce qu'à ce moment-là, on a appris à écrire et à lire. Et à partir de là, on se précipite en quelque sorte dans le contenu linguistique en ne regardant plus, c'est pas qu'on l'occulte, on n'y fait plus attention à tout ce qui est matérialité documentaire. Tous les indices qui sont très précieux en fait pour orienter la saisie de l'information, eh bien on les oublie au profit de la matière linguistique. Je dirais que l'autre point important aussi, c'est que nous nous sommes aperçus que les apprenants construisent des théories très amusantes pour nous, sur quand ils ne comprennent pas, quand ils ont des lacunes dans les savoirs, qu'ils rétablissent de la cohérence avec un imaginaire de la documentation qui est tout à fait intéressant, mais dont on se demande après comment il va être réinvesti dans les apprentissages. Nous sommes aperçus, par exemple, que beaucoup d'enfants n'ont pas du tout le sens du réseau. Et quand ils vont travailler sur les ordinateurs, ils font très attention à se remettre devant le même ordinateur, parce qu'ils ont l'impression que s'ils changent d'ordinateur, ils ne vont plus avoir accès aux mêmes informations. Donc, pour eux, c'est dans la boîte ordinateur que se trouvent les informations. Et ils n'ont pas du tout la connaissance du réseau. Il y a un travail sur les représentations qui est à faire. Or, ça marche quand même, puisque les enseignants n'ont pas forcément conscience. C'est des erreurs qui sont difficiles à déceler, si vous voulez, dans la communication pédagogique ordinaire. Bon, en conclusion, venez à notre colloque qui aura lieu donc au mois d'octobre. Les 16, 17 et 18 octobre à Lille sur l'éducation à la culture informationnelle. Et vous pourrez peut-être aussi trouver d'autres informations sur notre site qui, pour l'instant, n'est pas encore fourni puisque nous n'avons pas formalisé tous les résultats.
Alors, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est vrai que je vous ai tous laissé le temps qui vous avait été imparti un petit peu plus. Mais bon, on cumule des retards à force et j'aimerais pas trop qu'on prenne trop de retard. D'où l'interruption. Merci, vous voyez un peu à quoi, en fait, le RTE, c'est vrai que c'est de la recherche, mais c'est sur des fondements qui, quand même, nous concernent au final. Je pense que ton intervention permet de montrer que, effectivement, tout ce à quoi vous travaillez, c'est des choses qui pour certains, semblent peut-être un petit peu éloignées, mais qui, au final, sont importantes de comprendre comment ça se passe. Donc, bien sûr, rendez-vous au colloque à Lille. En octobre, et pour information, l'ENSIP publiera les actes du colloque en partenariat avec le RTE. Bien sûr.